Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Niptech, Niptech 453. Nous sommes le 25 avril 2024 et en pleine forme, on arrive. Qui c'est nous? Moi, c'est Ben. Je suis avec Mike, a.k.a. le meilleur copain de Tim Ferriss. Comment vas-tu, Mike?
Très bien, très bien. J'expliquerai pourquoi. Hein, attention, vous qui savez qui est Tim Ferriss, un des plus gros podcasteurs américains tout court de la planète. On enlève la Chine, mais voilà. Donc, très content d'être là pour parler tech, start-up et inspiration.
Et Baptiste aussi est là, en pleine forme, rayonnant. Baptiste, comment vas-tu?
Salut Ben, salut Mike. Non, ça va bien, la forme. J'étais faire du sport avant là de l'émission. Donc d'un côté, je suis fatigué, mais c'est la fatigue un peu saine que t'as après le sport. Je fais pas le genre que je vais souvent céder aussi pour ça parce que je vais pas souvent faire du sport que je sens ça, tu vois. Mais non. Et du coup là, le fait d'être rien que d'être assis à vous parler, ça fait plaisir.
Et t'es plutôt sport soir ou sport matin?
Soir.
Matin.
Soir, matin. Mais tu vois, genre, il me remarque, je sens que les plus jeunes sont plutôt sport soir, alors que les plus vieux deviennent sport matin. En tout cas, moi, c'est clair, je ne ferai pas de sport le soir, ça m'est impossible, ça m'est beaucoup plus dur, donc je préfère 10 fois me lever le matin tôt et faire du sport.
Mais après, à un moment, je faisais aussi le matin. C'est plus, je pense, ça dépend plus de mon agenda. Tu vois, en ce moment, je préfère commencer le boulot tôt et finir et aller au sport que l'inverse.
Ah oui. Mais il y a beaucoup de monde dans la salle aussi.
Je sais pas, moi, je vais à la piscine. Je sais même pas si c'est ouvert d'ailleurs tôt le matin. Je sais pas.
Bon, écoutez, faites-nous part de vos expériences de sport dans notre chat. Et on va expliquer d'abord pourquoi, Mike, vous le savez, si vous écoutez Niptech assidûment, de temps en temps, Tim Ferriss lui fait le plaisir de le retweeter. Et c'est arrivé une nouvelle fois, Mike. Et c'est toujours un grand moment dans la vie de oui. Mike. Alors, raconte-nous.
Oui, parce que vous savez, voilà, moi, je suis sur Twitter depuis 2008. Et puis, c'est vrai que je suis pas mal de gens depuis un moment. Et puis, c'est vrai que des fois, on sait qu'on va tweeter quelque chose à quelqu'un. On peut tweeter toute personne connue. Hein, on peut le faire hâte et puis leur parler. Et on sait que ça va avoir du succès et qu'il va le retweeter. Et pourquoi? Parce que j'aime bien Tim Ferriss, ce podcasteur. Et j'ai découvert un jeu grâce à lui. Un jeu que j'adore qui s'appelle, tu vois, j'en perds mon latin, ça s'appelle Taco Cat Goat Cheese Pizza. C'est vachement drôle. Ouais. Franchement, je vous encourage tous à aller le télécharger. Pas le télécharger, l'acheter, pardon. Oh là là.
Taco Cat Goat Cheese Pizza.
C'est tout simple à apprendre.
Il vaut 10 €, quoi.
Ouais. Et c'est tout simple à apprendre et on peut le jouer avec ses gamins. On l'apprend vraiment en 2 minutes, mais même avec des adultes, on peut le jouer. Et c'est Tim Ferriss qui en parlait sur sa newsletter 5 Bullet Friday, d'ailleurs, que je lis assez religieusement chaque week-end. Boom. Et je me suis dit, allez, je joue avec mes enfants. Et puis voilà, j'ai vu les mains des enfants, les trucs. J'ai dit, ça, c'est un tweet. Alors, je lui ai dit merci, j'ai mis les mains des gamins, vous verrez dans les notes de l'émission, cliquez dessus, et voilà. Et Tim Ferriss, alors 1 million et plus d'abonnés, je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que ça va donner? Alors, selon vous, combien ça a donné de views, hein, d'impressions, on va dire, pas de clics, mais d'impressions.
Combien il a de
parce que bon, 1,5 million, je crois.
Ouais, c'est un peu fini, Twitter, donc… Impression. 15 000.
Views. 20 000. Qui dit mieux? Ouais, il a 1,9 million, presque 2 millions. Baptiste?
Moi, je dis rien, j'ai vu les chiffres.
Ah ouais, il a triché. Au moins, il fait pas semblant. C'est bien. 31 000 views. Donc voilà, c'est pas mal, en même temps pas waouh, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup de retweets, et puis c'est marrant de voir ce que ça fait, c'est toujours assez drôle, mais c'est vrai que c'était un truc que je savais, j'ai tout de suite su que ça allait prendre, parce que c'est exactement, il y a des gamins, il y a un jeu, il y a un petit truc sympa avec une photo, donc je me suis dit voilà, c'est ça la viralité.
Tu tires encore, après toutes ces années, tu tires encore un petit pic de dopamine,
oui,
d'avoir
oui.
Un retweet de film, c'est bon.
Bah oui, bien. Et puis… Et c'est comme dans TikTok, hein, je vois, hein, quand on a moins de views, là, bah, on est à plus de 90 millions, donc c'est quand même beaucoup. Mais tout d'un coup, un mois, on en a moins, ou 2 semaines, on en a beaucoup moins. Et c'est assez fou quand on a un TikTok qui va viral, la sensation que ça fait, je vous jure, c'est assez bizarre. Et puis là, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, quoi. 20% des posts qu'on fait. Et puis tout d'un coup, je fais, oh, puis tu sais, ça te fait une émotion. Puis t'es là, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Puis t'es là, waouh, 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 waouh. Et puis c'est vrai que c'est des dopamine hits énormes. Et je comprends finalement. En fait, après, tu veux que la viralité. C'est tout ce que tu cherches, tu vois. Et c'est vrai que c'est assez marrant la sensation que ça fait.
Mais c'est probablement parce que justement tu l'as que 20% du temps, tu sais, c'est un peu l'effet des, c'est un peu comme les jeux d'argent. Si tu l'avais tout le temps, au bout de 5 fois, tu l'aurais plus le pic de dopamine. C'est que aléatoire, c'est pour ça, quoi.
Ouais. Mais je pense que les gens qui font ça, c'est vrai que après, la tendance, c'est vraiment à faire ce que les gens veulent et puis tu veux que les millions, quoi. Et finalement, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire tout le temps. Même Tim Ferriss le disait, hein. Il disait qu'il avait eu 1 milliard de podcasts download. Alors, est-ce que c'est vrai, les vrais stats ou pas? Mais en tout cas, voilà. À fin de l'année, au milieu de l'année dernière. Donc, c'est quand même pas mal, 1 milliard.
Ouais. Ok, bon, bah écoute, on est heureux et on est heureux
d'avoir découvert une question.
Taco Cat Go Cheese Pizza.
Oui, et je vous encourage, au lieu de picoler, hein, parce que moi, je ne vois pas, donc voilà, au lieu de picoler à table avec vos amis,
avec vos enfants,
avec vos enfants au réaffaire ou avec vos amis, achetez un jeu. Franchement, ça vaut la peine. Et jouez. Vous verrez, c'est drôle aussi en soirée, au lieu d'essayer de se raconter quelque chose ou de boire pour essayer de se raconter quelque chose. C'est assez cool de jouer. Et j'avais une petite question pour vous, les geeks. Qu'est-ce qu'un palindrome, est-ce que vous savez?
C'est un mot, c'est Sugus.
Ah oui, exact. C'est un mot qu'on peut dire à l'envers. Voilà.
Alors, Sugus, c'est un très mauvais palindrome, hein, mais ouais.
C'est exactement ça. Bravo le geek. Alors, il y a eu une date récemment qui était un palindrome dans les.
Ah, mais ça, c'est mal, Mike. Parce que c'était un palindrome aux US, pas avec le format de date. Correct. C'est
non,
avec
non,
le mauvais format de date.
Non, non, avec le correct format de date de européenne. Pas vrai.
Donc, c'était 24-04-24.
Bah, bravo, mais il est vraiment bon. Putain, ah, triché online.
Non, j'ai dit des bêtises. Non, oui, en effet, c'est avec le format normal. Oui.
Je me suis dit de manière cette bête cette semaine, toi. Vu
que... Oui.
Juste, voilà. Et ça te rend, mais tu es plein. Et donc, c'était. Tu as apprécié ce moment aussi?
Oui, passer l'anniversaire de mon père le 24-04. Ah, voilà. Je suis tombé dessus. Puis j'ai vu cette date. Puis je me dis, 24-04, mais on est le 24. Alors ça doit être un truc. Puis c'est vrai que j'avais vu l'ex Friedman poster une fois sur justement une date à l'envers, comme ça. Parce qu'il paraît qu'en avril, il y en a eu plusieurs. Et je me suis dit, ah putain, c'est quoi? Puis j'ai tapé palindrome. Et oui, 24-04-24. Même si on ne met pas 20-24, est un palindrome. Donc maintenant, vous savez ce que c'est. Et moi aussi.
Mais si je lis à l'envers, ça fait 42-40-42, non?
Oui, je sais, mais on n'est pas complètement malade dans les mots, quoi. C'est des dates, c'est déjà vachement bien.
Ok, c'est pas mal. C'est bien pour une date, mais tu as raison, toujours à chercher. Là. Réjouissons-nous de ce beau palindrome. Et puis, peut-être une chose encore dont on veut parler, parce que c'était, comme vous voyez, une semaine faste. Grâce à toi, Mike, hein, d'ailleurs, qui était vraiment en feu cette semaine, on a reçu des invitations pour AirChat. Air.chat, qui est cette nouvelle application orale avant tout, mais qui transcrit également ce qu'on dit. Et alors, on a fait l'essai, ben, faisons un petit peu le tour. Je crois qu'on est tous assez d'accord sur AirChat. Hein, donc, mais Mike, vas-y, comme c'est toi qui as chopé les invites.
Oui, alors, on peut tous s'inscrire, il n'y a pas forcément d'invitation. Et puis, ce n'est pas moi, hein, c'est dans notre incroyable NipTech Nation Signal WhatsApp que les gens, ils ont commencé à poster, dont Yves Menou, un grand écouteur de NipTech depuis des années, qui a commencé à en parler, parce que moi, et puis je me suis dit, c'est quoi ce truc? Puis j'y suis allé. C'est vrai que c'est un espèce de Twitter oral, audio, on va dire ça comme ça, où tu fais des tweets. Alors, et puis, au fait, il te les lit, et tu peux lui parler en français, puis en même temps en anglais, puis il va traduire en texte ce que tu dis, et les gens vont pouvoir entendre ta voix en même temps ou lire le texte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Une chose qui m'a blown away, c'est la capacité à pouvoir transcrire ce que tu dis avec un accent, avec une rapidité, avec des up. Et puis, je changeais de langage pendant la phrase et ça après switchait en anglais. Donc, franchement, et ça allait une rapidité. Et je me suis dit, waouh, on aimerait bien qu'un LLM ait ça et que Siri ait ça et que mon
alors,
Alexa
LLM, ait
ça.
On avait fait les tests avec Whisper. Il y a le, j'avais fait pour quelqu'un qui faisait des entretiens de groupe, pas hyper bien enregistré au niveau de la qualité sonore. Et Whisper en version en modèle large, il chopait tout. Mais tout, alors que les gens se parlent pas dessus, ils récupéraient les trucs, enfin.
Incroyable.
Donc, le seul truc, par contre, vu que je faisais tourner en local, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et là, c'est vrai que tu vois qu'ils ont
une grosse
machine derrière, parce que c'est vraiment instantané. Ils loupent très peu de mots. Mais au final, alors c'est vrai que c'est cool quand tu vois, puis que tu te dis, mais c'est évident. Donc, c'est une feature, je crois qu'on est tous d'accord. Est-ce que c'est un produit? Je crois qu'on est aussi tous d'accord. C'est pas un produit, quoi. Non. On va pas aller là-dessus.
It's a feature, not an app. Mais moi, j'ai été blown away par la capacité. Aussi, il y a Naval derrière et j'adore Naval. J'ai même parlé de son livre la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et franchement, j'adore ce gars. Et puis, je trouvais que c'était intéressant. Ah, pour une fois, un truc nouveau, quoi. Alors, ça prend, est-ce que j'y suis retourné? c'est ça, j'y suis retourné aujourd'hui pour vous en parler un peu, parce que je me suis dit, ah ben on va en parler, mais en fait ça m'a pas du tout donné envie, parce que c'est tellement long, tu vois, d'écouter tous les gens qui parlent. Moi je les ai d'écoute déjà à 1.5, donc j'étais là, j'avais pas trop envie.
Et de lire?
Bah c'est Twitter.
Okay. Wow, moins mais, bien, parce ouais. que c'est le problème qu'il y a, c'est qu'à moins que tu aies un cerveau qui soit vraiment cristallin dans la façon de dire des choses, ouais, enfin, la transcription de l'oral, c'est toujours un peu tristoun, quoi. Donc,
ouais, ouais. C'est long. Ouais. C'est long. Je remarque des fois, j'essaie de faire des messages WhatsApp pour aller plus vite et puis de les transcrire en écrit. Et à chaque fois, je prends des trucs énormes. C'est horrible.
Là, il faudrait un LLM, tu sais, pour condenser, en vrai. Ça, ouais. ça serait que ce serait un usage, pour
oui.
le coup.
Oui.
Tu vois, tu fais un message, ouais. tu le dictes et après il te le met à l'écrit, quoi.
Alors, maintenant, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que ça va prendre? Est-ce que vous pensez que ça va être intégré dans d'autres plateformes, ce genre de choses? Qu'est-ce que
évident que ça va être une option dans tous ces trucs. Parce que tu voudras ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a des fois où c'est sympa. Le côté de pouvoir écouter ou lire. En fait, ce que j'aimerais surtout, c'est que quand quelqu'un me fait un vocal, je puisse avoir l'option de lui dire transcrit. Mmh. Parce que des fois, t'as pas envie, t'as pas ton casque, ou t'es dans un endroit, tu veux pas écouter, pour mille raisons, t'as pas envie. Ou...
WeChat, il y a cette fonctionnalité.
Sur WeChat, c'est... bah, évidemment. Oui. Parce qu'ils ont, ils sont
la fonctionnalité texte,
donc...
et puis il peut te mettre ça. Donc, mais c'est pas aussi clac que AirChat, je veux dire. T'as testé, Baptiste?
AirChat, non.
Ok. Tu t'es dit un réseau social de plus, non merci.
Et voilà. Ouais, et puis d'autres choses, enfin.
Ouais. Mais ça vaut la peine, j'encourage tout le monde à tester quand même. Alors peut-être ça va pas crocher, mais juste à le tester pour se rendre compte. Puis si vous parlez plusieurs oui. langues, franchement, parlez plusieurs langues dans le chat, dans le même chat, enfin dans la même discussion, puis vous allez être blown away, vous allez vous dire mon Dieu. Moi j'ai essayé qu'avec le français, l'anglais et l'allemand, et franchement à chaque fois il a changé de langue, et donc j'étais halluciné.
Mais bon, si tu veux, le côté marrant, c'est que c'est pas beaucoup plus impressionnant, mais c'est que quand tu as ta transcription directe dans Teams, par exemple, qui marche aussi oui, hyper bien.
Incroyable.
C'est juste que c'est vrai que l'outil fait que vu que tu as que ça, puis que tu fais pour ça, c'est plus visible. Toi, quand tu es dans Teams, en général, tu penses à autre chose, mm-hmm. et puis tu es moins là, on est plus habitué, disons, avec YouTube et tout ça à l'avoir. Mais par contre, c'est vrai que il y a un petit côté différent dans l'usage qui vaut la peine pour comprendre un petit peu ces choses-là. Mais effectivement, si AirChat perce, alors on peut mettre des photos, on peut ajouter. Peut-être qu'il y a des trucs à faire avec des descriptions, peut-être avec les même s'ils ajoutent la vidéo. Enfin, il y a peut-être des trucs à faire, mais ouais, je
vois. Je vous avais parlé de Microsoft Translator, non? Ou pas?
Ouais.
Mais cette dernière fois, quand je suis allé encore en Asie, je crois pas que j'en ai parlé et je l'ai réutilisé. Mais cette fois, je l'ai vraiment utilisé. C'est-à-dire quand il y a des gens qui parlent que chinois et moi, je parle pas chinois ou ils parlaient que coréen et, j'ai vraiment pris le temps de parler avec eux et personne ne me traduisait. Et en fait, vu que le translator, il peut se faire dans les deux langues, il faut avoir le téléphone au milieu, mais j'ai eu des conversations que j'ai jamais eues à l'époque parce que j'avais toujours besoin de quelqu'un qui traduit. Alors, au bout d'un moment, tu as quand même envie de quelqu'un qui traduit parce que le problème, c'est que tu es obligé de regarder par écrit et puis tu n'as pas l'audio, donc quelqu'un te parle et puis ce n'est pas en audio, donc tu dois toujours avoir les yeux. Mais finalement, tu peux avoir des conversations incroyables. Franchement, j'étais halluciné. Et je l'ai beaucoup, beaucoup plus utilisé cette fois-ci quand j'ai voyagé et j'ai trouvé ça incroyable.
Ouais. Non, c'est clair. Donc, AirChat, allez-y, testez et venez nous dire dans notre groupe Signal ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas accès à notre groupe Signal, un petit mot à info@niptech.com et puis on vous donne tout ça. Alors, on va quand même plonger dans les news de la semaine en commençant. Baptiste, allez, je te laisse choisir. Tiens, pourquoi tu veux commencer?
On peut commencer par ta news, Ben, sur les rumeurs. Si c'est des rumeurs globalement, comme quoi Apple baisserait le nombre de units du Vision Pro qu'ils espèrent vendre. C'est pas, je pense qu'on peut dire, c'est pas super clair ce que les chiffres veulent dire parce qu'il y a des sources différentes. Il y en a qui disent que donc c'est surtout Mark Gurman, je crois, ou Min-Chi Kuo, qui sont un peu les deux gens qui leakent beaucoup des informations d'Apple qui sont pas cohérentes entre eux-mêmes. Enfin bref. Mais il semblerait que globalement, c'est vrai que le Vision Pro, depuis la sortie, on n'en a pas entendu beaucoup parler. On n'a pas des news de développeurs qui sortent des apps intéressantes, même de Apple qui sortiraient eux-mêmes des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, ils n'ont pas du tout sorti de contenu pour le Vision Pro. Enfin, quelques vidéos, mais très peu de choses. Donc ouais, voilà, ça a l'air d'un peu de stagner. Il n'y a pas beaucoup de...
Effectivement, ils disent qu'ils ont prévoyé 850 000 et qu'en gros, ils allaient en produire en fait la moitié. Donc déjà, c'est pas beaucoup à la base. Je me disais, bon... Enfin, c'est pas beaucoup pour l'échelle d'appel. Donc, je m'attendais à plus à la base, et surtout en attaquant le marché mondial, parce que là, on parle de, aussi avec l'extension hors des États-Unis. Donc, c'est effectivement vraiment, vraiment peu, quoi.
Ça, c'était pas que pour le marché US, 800 000 et 400 000. J'avais cru comprendre ça.
C'est possible, tu crois?
Je pense que c'était ça, mais peut-être
pas. Ok, ouais, j'espère pour, attends, on va regarder. Mais j'espère pour eux, parce que sinon, franchement, c'est pas. Bon, est-ce que ça surprend quelqu'un?
Eh ben, moi, personnellement, c'est vrai que on a entendu beaucoup parler les deux premières semaines, trois premières semaines, tous les gens qui les avaient, et puis tout d'un coup, ça s'est die down, et tous ceux qui l'avaient acheté n'en parlent plus. C'est toujours un tel, tu vois, quand les gens qui l'ont acheté ne continuent pas à l'utiliser. Et voilà, c'est un gadget, mais un gadget à 3 000 $. Et est-ce que on a vraiment envie de l'avoir? Alors peut-être notre ami, qui est sur Pivot, professeur Galloway, qui dit que tant que c'est pas des petites lunettes jolies, magnifiques, les gens ne voudront pas mettre ça sur leur tête, que c'est dégueulasse. Voilà. Mais moi, j'aurais quand même envie de le tester. Finalement, c'est vrai que j'ai vraiment envie de le tester pour voir, et puis en tout cas le en acheter un pour pouvoir rigoler, tester, voir comment c'est. Mais ça sera plus au niveau professionnel que privé, je vais dire, que je vais le faire. Voilà. Mais ça m'a pas étonné. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que Apple n'avait pas eu aussi peu de succès que ça sur un produit. Alors bien sûr, on peut parler de la colonne qui est pas waouh, c'est normal, elle a un câble ou que deux trois autres choses, mais qu'elle ait sorti un tel truc en fanfare, ouais.
C'est un peu étrange en fait, parce que finalement l'interprétation la plus généreuse qu'on peut faire, c'est de dire ah bah c'était un truc pour développeurs, le but c'est de l'avoir qu'il soit dehors pour enfin qu'il soit en vente pour que les développeurs puissent se préparer, faire des apps, mais je sais pas, ça sonne quand même un peu faux, parce qu'ils l'ont quand même sorti comme un produit grand public. Ils ont jamais dit, ah, c'est réservé pour la communauté des développeurs. C'est un peu ambigu. Et le fait qu'eux-mêmes ne mettent pas ils n'ont pas l'air de mettre des moyens dessus, je sais pas, c'est un peu étrange.
Ouais, et puis bon, mais on revient à tous ces trucs de casse, quoi. Finalement, c'est comme Facebook. Enfin, s'ils ont pas plus, on a toujours l'impression qu'Apple va trouver la formule magique. Parce que ouais, c'est clair, ils l'ont fait avec le téléphone, mais voilà, ça sera pas pour ce coup-là en tout cas visiblement. Alors on leur souhaite que ça passe. Nous, on sera content hein, quand on aura des lunettes comme ça. Je pense que sincèrement, alors je regarde pas les revues à fond, mais je vois beaucoup plus de revues positives des Ray-Ban Meta que de tous les casques en fait. Donc le format effectivement portable, petit, peut-être pas hyper utile, mais enfin en même temps pas hyper invasif non plus. Non. Ça a l'air de beaucoup plus plaire, et puis les utilisateurs ont l'air de se dire bon bah ça fait ce que ça fait.
Et double emploi, n'oublie pas, parce que t'as petite caméra et tu peux écouter de la musique. Donc t'as et le son et tu peux appeler quelqu'un et t'as quand même double emploi.
Et encore mieux, ça fait lunettes de soleil.
Ah oui, c'est vrai. On avait oublié ça. Quand je les ai vues en Italie, elles étaient pas. Je les ai pas personnellement essayées, mais parce qu'il y avait une file et puis il y avait quelqu'un qui essayait, mais je regardais. Et puis voilà, j'ai trouvé plutôt assez cool. Mais c'est vrai, t'as raison de dire que finalement ça a plus d'intérêt que ça. Moi. Ouais. Une chose qu'on peut dire que c'est différent, c'est qu'on pourrait se dire ouais, c'est comme la montre. L'Apple Watch au début, elle n'a pas eu autant de succès que ça, parce que la version après, elle est devenue la version 2, 3, 4, elle est devenue bien meilleure. Oui, mais quand ils ont sorti l'Apple Watch, il y a quand même plein de gens qui l'ont acheté. Ouais. Parce qu'ils adoraient la form factor, parce que le design était beau, parce que la chose était belle. Voilà. Ouais. Après, l'outil s'est amélioré avec le temps. Mais à la base, c'était quand même un bel objet.
Et il manquait pas grand chose, tu vois, entre la V1 et la V2 et la V3. Bon, c'est pas non plus. Voilà, c'est juste que certaines apps ont été plus mises en avant, d'autres un peu moins en avant. T'as un peu l'écosystème qui se crée. Là, t'as quand même l'impression qu'il manque beaucoup. Mais encore une fois, peut-être que dans un an ou deux, on verra les use cases. J'ai aussi l'impression que c'est ça, c'est que il n'y a pas un use case clair, tu vois. La chose que j'ai entendue la plus convaincante, c'était de dire, pour dans l'avion, c'est vraiment bien. Quand t'es dans l'avion en classe éco. Tu vois, ça rend vraiment ton expérience beaucoup, beaucoup bien meilleure. Et imagine maintenant le casque qui coûte, au lieu de coûter 3 500, il coûte 2 000. Tu vois, pour quelqu'un qui prend beaucoup l'avion, ça peut déjà faire sens. Tu vois, si ça te permet de travailler dans l'avion, de passer un meilleur moment. Donc, je pense que c'est aussi
ça reste bien niche, quoi. Je veux dire.
Oui, c'est ça. Ça reste niche. Et c'est pas vraiment la cible d'Apple. Mais par rapport aux Ray-Ban, c'est aussi ça. C'est que les Ray-Ban, j'ai quand même l'impression. Tu vois, ça sert pas à grand chose, mais c'est un use case. Tu vois, tu peux dire, ah ben voilà, je peux prendre des photos avec. Je les utilise comme lunettes de soleil. C'est pas. En plus, de toute façon, les Ray-Ban, vu que c'est déjà très cher, ben la version avec les caméras, c'est pas beaucoup plus cher.
Ça va, 120 balles. C'est pas les lunettes les plus chères. C'est pas des Tom Ford. Je dirais entre 120 et 150 balles. Alors oui, c'est mieux, mais c'est pas les lunettes les plus chères du monde non plus. Mais
non, c'est vrai, c'est clair.
Que le design, en tout cas, joue un rôle. Et c'est ce qu'on dit, c'est comme avec l'Apple Watch ou d'autres. C'est pas seulement la forme, c'est pas seulement la usability, c'est aussi le design.
Mais est-ce que c'est le design, tu penses? Fondamentalement, est-ce que c'est le design ou c'est le fait qu'il y a un use case? À mon avis, c'est plus le fait qu'il y a un use case que le design. Parce que tu as l'Apple Watch, soyons francs, à côté des montres suisses, machin. C'est pas le, c'est un peu générique, c'est pas le plus joli, t'es pas très original quand t'as une Apple Watch, tu vois. Le truc, c'est que ça sert à quelque chose. Mm-hmm. Et que ça sert suffisamment à quelque chose pour que ça vaille le coup que tu payes 300, 400 balles et que
les gens la gardent au bras. Parce que moi, j'ai été étonné, parce que maintenant, les gens la gardent au bras parce qu'ils ont une utilité.
Ouais, la gardent au bras, puis ils s'emmerdent, pardon, mais à la recharger tous les jours.
C'est
quand même un sacré signe d'amour. En termes d'électronique, l'amour, c'est ça.
C'est le nombre de fois que t'es prêt à la charger. Je dois dire un truc quand même. On peut se critiquer tout ce qu'on veut. Moi, j'applaudis quand même Apple d'avoir fait la démarche d'innover et de pousser un domaine. Parce que de toute façon, ils doivent. Et pas tout pour avoir du succès. C'est comme tout. Tu ne peux pas avoir chaque fois du succès. C'est impossible. Mais je trouve que le fait d'innover, le fait de ça, peut-être qu'ils vont revenir avec un form factor plus petit. Et puis, ils vont finalement réussir. Donc, moi, avec les milliards qu'ils ont, finalement, il faut continuer, et puis un de ces quatre, ils vont bien tomber. Quand je parlais, je m'imaginais une solution. Tu vois, c'est comme dire, je veux faire une voiture au lieu de faire CarPlay. Tu vois, peut-être c'est ça qu'ils doivent se dire, Apple. Au lieu de se dire, ils peuvent aussi être l'écosystème sans forcément être le hardware. Mais je comprends qu'ils n'ont peut-être pas envie.
Ouais. Autant dans la voiture, je peux voir ce que ça fait, autant dans les casques. Est-ce qu'il pourrait être un OS pour le casque de Meta?
Aïe, aïe, aïe.
Ça pourrait être personne, moi.
J'y crois moyen quand même.
Bon, je vais vous poser une question. En tant que pays, alors, si on ne peut pas innover, qu'est-ce qu'on fait?
La
deuxième meilleure chose. Mais oui, on régule. Et
oui,
si on est un
c'est même mieux que innover. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est le plus important de réguler.
Alors là, ça, c'est du miel à mes oreilles. Là-dessus, je pense qu'on a une belle unanimité. Et c'est pour ça qu'en tant que NipTech, nous réjouissons énormément de l'interdiction à venir. Alors, dans 9 mois, paraît-il, de TikTok aux États-Unis. Parce que, voilà, c'est une excellente raison de bannir une app qui nous plaît pas parce qu'elle est aux mains des Chinois. Donc, si vous n'avez pas suivi, mais je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant, le Sénat américain a passé cette loi pour bannir TikTok. Donc, il y a encore tout un côté légal qui va devoir être discuté. C'est pas certain vraiment que la loi soit constitutionnelle. Mais si c'est le cas, il va falloir qu'ils désinvestissent et que la société passe en main américaine. Le problème étant que l'algorithme est fait en Chine et que la Chine a une loi qui justement interdit ce genre de transfert et que par conséquent, ça pourrait être simplement impossible. Et ça mènerait donc à une situation un peu comme on a en Inde d'ailleurs, où TikTok est carrément interdit. Bon, alors, voilà un petit peu le contexte. Est-ce qu'il y a peut-être... Ce qui m'intéresse plutôt de votre côté, c'est de se dire qu'est-ce que ça envoie comme signe, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui disent bravo. Donc voilà, toutes ces critiques qui disaient on interdit en Chine, ils interdisent nos apps, et en fait, c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est autre chose que du protectionnisme? Est-ce que vous êtes plus charitable que ça,
Baptiste?
Pour moi, c'est la même chose que dire, on veut pas que des chaînes, tu vois, genre, il y a des lois aux États-Unis, en Europe, qui disent que tu peux pas avoir des chaînes de télé qui appartiennent à des pays étrangers. Alors, je sais pas exactement comment c'est, mais c'est restreint.
C'est régulé.
Voilà. Ça me semble être normal que si t'as un pays où, qu'on le veuille ou non, il y a des tensions géopolitiques entre les deux pays, c'est pas complètement irraisonnable de penser qu'un jour il y aurait une guerre entre les États-Unis ou la Chine, même par proxy. Est-ce que c'est cohérent que de dire qu'un média qui a énormément d'influence et sur lequel il y a très peu de transparence, on l'autorise pas à être aux mains de ce gouvernement ennemi? Ça me semble être raisonnable. C'est même pas une question de protectionnisme ou quoi. Maintenant, est-ce que c'est tourné comme ça suffisamment dans les médias américains? Peut-être pas, mais d'un point de vue juste sécurité nationale, ça me semble être quelque chose de cohérent et pas non plus délirant. Je veux dire, ils disent pas, il faut pas une TikTok demain. Ils disent, il faut le vendre. Non, j'ai du mal à voir en quoi ce serait pas une régulation qui est assez, comment dire, raisonnable, entre guillemets. Et je suis d'ailleurs étonné que l'Europe ne parle pas du tout, parce que pour tout l'enthousiasme qu'on a en Europe à vouloir réguler, ça m'étonne et tu vois que l'approche américaine, elle plaise pas aux Européens de dire, juste parce que là, la loi, c'est globalement TikTok est banni. C'est pas, les plateformes sociales de telle taille. Tu vois, si demain l'Europe, il pourrait très bien dire, on réfléchit à un framework pour dire les médias sociaux qui ont peut-être beaucoup d'utilisateurs, pas assez de transparence, on les laisse pas appartenir à un gouvernement qui, d'un pays qui n'est pas, qu'on considère pas ami, Juste le fait que en Europe, on n'en entende pas parler, ça m'étonne, je dois dire.
Ouais, c'est intéressant, mais c'est pas étonnant. Finalement, on s'y attendait, puis ça pendait au nez, puis c'était peut-être quelque chose dont tout le monde était plus ou moins d'accord. Aussi, il faut voir la réciprocité. En Chine, très peu d'apps, réseaux sociaux, voire pas du tout, sont acceptés. Donc, finalement, c'est aussi une réciprocité à faire. Après, est-ce que cette réciprocité est légale? Non. Donc, on trouve d'autres moyens. Je pense que les États-Unis ont très peur aussi de l'influence que TikTok a sur les jeunes. C'est clair et net que, en termes de capacité à capter ton attention, TikTok est 100 fois plus viral, voire 1000 fois plus viral que YouTube ou que Instagram. Et c'est vrai que les jeunes sont sur cette plateforme. Après, il y a les élections qui arrivent, on pousse la gauche, on pousse certaines volontés. Là, on n'a aucune visibilité sur l'algorithme. Je trouve que c'est pas le fait que ça appartienne forcément à une compagnie étrangère qui des fois dérange. C'est le fait qu'il y ait le gouvernement derrière et que ça soit un médium extrêmement vu. La question que j'aurais, c'est que je me dis, OK, disons que voilà, ils splittent les États-Unis. Qu'est-ce que va advenir de TikTok Europe? Est-ce que tu crois qu'ils vont le laisser comme ça ou est-ce que nous, TikTok Europe, on rapporte déjà à TikTok US?
À mon avis, ils veulent le séparer. Si je veux dire tout ce qui, imagine t'es les Chinois, t'es obligé de vendre. Évidemment, si tu peux t'arranger pour garder l'Europe aux mains de la Chine, forcément ils vont le faire, tu vois. Parce que on va pas si tu en les forces, voilà. Mais il y a pas de plan clair pour l'instant d'ailleurs.
Mais s'ils font ça, c'est clairement ça montre qu'ils ont envie de garder le data, tu vois.
Mais oui.
Donc j'entendais Professeur Galloway.
Rien que le fait qu'ils veuillent pas le vendre. Ouais. Là, demain, je veux dire, si le but c'était juste de maximiser la richesse pour la Chine. Tu vois, si tu parles de manière purement capitaliste, ils diraient, OK, les États-Unis nous aiment pas, ils sont méchants, machin, mais ils y vendraient. Parce que TikTok aujourd'hui vaut vraiment beaucoup.
Oui.
Et plus ils attendent, plus le risque. Tu vois, parce que là, en gros, ce qu'ils sont en train de faire, c'est dire, ah ben, on va contester la décision en justice, mais on va attendre. Mais ça veut dire que pendant ce temps, la plateforme, elle va se désintégrer, ouais. Tu vois, elle va en partie se désintégrer, parce que les créateurs vont se dire, moi, je veux pas risquer, je garde pas sur TikTok, ouais. Je vais aller sur les autres plateformes. YouTube et Instagram, évidemment, ils sont très contents.
Oui, les Reels et Facebook.
Voilà.
Jusqu'à ce que l'algorithme devienne bien. Mais quand même, l'algorithme de TikTok, il a quand même quelque chose de spécial.
Oui,
moi qui vais un
il
peu.
Il est mieux, mais j'y crois pas que Meta va pas réussir à faire un bon.
Ah non,
ils ont 125 milliards de GPU, ils ont tous les meilleurs ingénieurs, je veux dire. C'est qu'une question de temps, tu vois.
Oui, t'as raison. C'est qu'une question de temps jusqu'à qu'ils y arrivent. Et puis, moi, je vais vous dire l'Inde, parce que j'y étais. Et puis, j'ai vu un monde sans TikTok, ben, ils sont tous sur leur téléphone et puis ils sont tous sur les Instagram Reels ou les YouTube Reels. Mais... Alors, c'est vrai que les Instagram Reels fonctionnent mieux que les TikTok Reels, parce que là, il faut des VPN et tout le bordel, donc c'est plus compliqué. Et donc, TikTok n'est pas beaucoup utilisé. Mais... une chose que j'ai vue, c'est qu'il y a plein de produits chinois qui sont vendus en Inde. Tant que c'est produit en Inde, c'est pas un problème. Donc voilà, je pense que l'interdiction, ça va être une belle question de voir. Est-ce qu'ils vont jusqu'à l'interdiction ou est-ce qu'ils s'arrangent financièrement? Professeur Galloway semblait dire qu'ils allaient essayer. On parlait tellement de pognon qu'ils allaient forcément s'entendre. Donc
c'est pas certain parce que ça peut être tellement important pour la Chine de montrer le point que c'est pas sûr que ce soit juste une question de gros sous.
C'est ce que je te dis, ils vont pas laisser il y a aucune chance qu'ils laissent l'algorithme partir dans une boîte américaine, mais pour la même raison que tout le monde protège son IP. Et puis maintenant que les Chinois commencent à avoir l'IP qui vaut plus que ce qui se fait aux États-Unis, parce que même oui bien sûr tu peux copier, tu peux arriver, mais bah, va falloir payer pour ça, tandis que si tu le mets dans une boîte américaine, ça n'a pas de sens. Donc, moi,
tu penses que non?
Si je devais mettre une pièce, je pense qu'il y aura. C'est vrai que c'est intéressant parce que les États-Unis, ils aiment quand même beaucoup l'argent. Puis TikTok, oui. Ça en fait beaucoup et que c'est un vrai crève-cœur. Toi, même la défense, on aime bien. Mais ce qu'on aime bien dans la défense, c'est que ça fait aussi beaucoup d'argent. Donc, ça va être difficile. Parce que je sais pas où je vais mettre une pièce, là, je dis c'est ban.
Parce que TikTok, c'est important en Chine, mais c'est pas the app, hein, je te dis. C'est beaucoup plus pour les jeunes et c'est pas l'app dominante qu'on tu vois partout. C'est WeChat, là, l'app dominante avec plein d'autres. Mais c'est pas aussi dominant que ce qu'on voit chez nous. Hein. Donc, c'est une belle app, mais pas la app. Donc, je pense que en perdant les États-Unis, voire l'Europe, ils perdent l'app.
Ouais. À voir si quelqu'un, où on sera.
Alors, votons.
On aura du temps.
Votons. Qui pense? Alors, Ben, toi, tu penses
c'est ban.
Que...
Moi, je pense que c'est ban. Allez,
ban, Baptiste.
9 points, c'est ban. Dégage.
Moi, j'ai quand même tendance à dire qu'ils vont le vendre sans l'algorithme.
Moi aussi. Moi, c'est paid. C'est pas banned.
Parce attends, tu veux dire le... avec ou sans l'algorithme?
Mais bien sûr qu'ils vont vendre avec l'algorithme.
Ah, avec? Ah non, moi je pense sans.
Mais sinon,
l'algorithme, ils ne le laisseront pas. Juste pour, même si c'est juste pour montrer le point, je pense qu'ils ne vont pas laisser. Par contre,
ils diront que non, mais il sera quand même derrière parce que tu devras faire tourner le truc. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse troddle et mettre un peu plus de gauchisme, un peu plus de droite, un peu plus de ci, un peu plus de ça. Ils n'ont pas envie. Donc, je pense que là, ça va être difficile. Mais
voilà. On verra. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Bon, on ne peut quand même pas passer une semaine sans parler d'intelligence artificielle.
Oh oui.
Quand même, ouais. Et là, Baptiste nous a trouvé deux news intéressantes qui touchent d'une part les structures d'organisation, mais aussi les modèles eux-mêmes. Et ben, on voit que tout change et tout change assez vite. Donc, c'est encore là, un monde qui bouge et ça, on aime. Alors, dis-nous.
En effet, alors, si faites comme si vous n'avez pas lu la news. Si vous devez penser aux géants de la tech, lequel est celui qui a le plus contribué à l'intelligence artificielle et lequel est le moins, mais qui en même temps est le plus, emmerdé par les progrès de l'intelligence artificielle?
Google.
Écoute, sincèrement, c'est vrai qu'en termes de... Alors, Meta fait beaucoup, mais déjà à l'époque où j'étais à Google, alors ça commence à faire beaucoup de lunes, hein, ça fait 15 ans, ils parlaient déjà... De machine learning vraiment très poussé, quoi. Ils appelaient pas ça intelligence artificielle comme ça. Mais quand j'y étais, c'était déjà, on bouge vers le machine learning, tout au machine learning. Donc, ça fait un moment qu'ils y bossent et qu'ils voient venir. Et, c'est comme quoi, voir venir, des fois, ça suffit pas, quoi.
En effet. Et donc, maintenant, évidemment, il y a le patron de Google, il y a son nom qui m'échappe.
Sundar
Pichai, merci. Dont beaucoup de gens commencent à dire que peut-être qu'il serait temps qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre.
Le Steve Ballmer de Google.
Ouais, c'est ça, c'est comme ça, quoi. Et t'as pas envie d'être le Steve Ballmer de.
Ah non.
T'as pas envie. Mais, il veut montrer qu'il se laisse pas faire et qu'il est en train de réagir. Et donc, il a annoncé une grande réorganisation de Google pour notamment mettre ensemble tous les devices et les services qui sont pas la recherche, si tu veux. Donc dans la même unité, il y aura les Pixel, Google Photos, Google Drive, non, je crois que c'est pas dedans. Ou alors c'est que la partie consumer, enfin bref. Mais en gros, toutes les choses qui peuvent se mettre ensemble pour mais qui en général au passage font pas beaucoup d'argent parce que globalement, ce qui n'est pas la recherche YouTube ou le cloud, ça fait pas beaucoup de sous chez Google.
Non.
Et pour le dire, pour les mettre ensemble pour faire de l'IA et pour promouvoir en gros de l'IA transversale où tu as l'IA qui tourne sur le téléphone et en même temps elle te permet d'utiliser les services Google mieux et pour avoir un peu cette intégration. Et je trouve ça intéressant parce que d'une part ça montre un peu l'idée que ça émet l'hypothèse que pour profiter au mieux de l'IA il va falloir quelque chose qui soit intégré. Ce qui est intéressant parce que c'est est-ce que c'est des nouveaux services ou est-ce qu'au contraire c'est des features un peu partout, donc ça c'est un peu dans cette direction que ça irait. Et l'autre truc qui est intéressant c'est de dire que peut-être qu'en fait Google ils sont vachement bien placés parce que ils ont tout ensemble et ils ont la technologie, ce que finalement en fait l'autre player qui serait obvious pour mettre de l'IA dans ton téléphone, dans tes services et tout serait Apple. Mais Apple ils ont quand même du mal parce que d'une part ils ont l'air d'être en retard sur la technologie et ils sont pas d'expérience à développer, tu vois, ils sont pas très bons dans les services entre guillemets, tu vois, ils ont pas une énorme ferme de serveurs, ils ont pas l'infrastructure qu'a Google. Ils ont une marque aussi qui est très forte, ou si ton IA elle fait des bêtises, ça passe pas très bien avec Apple. Donc il y a moyen que Google ait un coup à jouer là-dessus et je voulais vous demander, est-ce que vous y croyez?
Non, au même titre que Meta et que Microsoft, parce que ce que je disais, c'est Google, ils sont prêts. Mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que comme n'importe quelle boîte qui devient trop grosse et trop grasse, etc., il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de politique et beaucoup de bureaucratie et que finalement, voilà, ils ont pas pu le faire parce que il y avait des circonstances internes qui les ont amenés là. Mais ce coup de balai, c'est exactement ce qu'il faut. Alors, peut-être que c'est le moment où il se décivalmerise, notre ami Sundar Pichai. Mais ça serait un péché si Google n'y arrivait pas. Je veux dire, si, comme tu dis, ils sont faits pour, quoi. Je veux dire, donc, alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver parce que changer une boîte, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je resterai quand même très confiant, quoi.
Ouais. Moi, c'est. Est-ce que vous vous souvenez du réseau social du nom du réseau social de Google?
Google Plus.
Google Plus, exactement.
Et, ah là là.
Et je me souviens comme ça, ça patinait. Et puis au fait, au final, ils l'ont abandonné parce que ça marchait pas. Mais c'est vrai que c'était nouveau pour eux. Ils n'arrivaient pas. Mais je sens le même patinage alors qu'on parle du machine learning qui est là, ce que Google sait faire et fait déjà. Mais le problème, c'est l'UX. Le problème, c'est l'user interface. C'est ça le problème de Google, c'est l'user interface. Je vous encourage tous à aller tester perplexity.ai. Franchement, c'est excellent. Vous downloadez l'app, vous vous interagissez. C'est exactement ce qu'un Google Search devrait être.
Tu l'utilises vraiment pour toutes tes searches?
J'utilise ChatGPT.
Tes recherches?
Oui. À part si je cherche un site que je sais déjà, mais je me suis trompé dans l'adresse. Mais honnêtement, je n'utilise plus Google Search pour grand-chose en ce moment. Perplexity, en fait, j'ai pas l'habitude de le prendre tout le temps. C'est pour ça que je l'oublie. Mais sinon, je vais direct sur ChatGPT. Et je dis juste, il me semble qu'il y a cet écosystème. Là, je suis tourné sur Bard. Déjà, j'étais là, quel daube. Je tape Niptech. Je tape, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-moi 2-3 news. Oh, je peux pas accéder. Je peux pas si, je peux pas ça. T'es là, mais c'est bon. Non, merci. Je veux pas de ton machin. En fait, c'est nul. Et le UX est nul. Et je vous donne un exemple.
Ouais, sincèrement, je vois pas pour utiliser un peu tous, c'est pas qu'il y a je sais pas que ce soit ChatGPT, me dit, oh, c'est beau, c'est bien intégré, le UX est excellent.
Non,
mais la même boîte moche partout.
Oui, mais le feedback est bien meilleur. Je veux dire, l'analyse qu'ils me le font, le truc, le si, c'est excellent. Je dois dire à chaque fois. Et si je tape Niptech, donne-moi des news, des si, il va me les donner les news maintenant. Et parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et donc, je trouve que un truc que je trouve excellent, que moi j'utilise beaucoup, je paye ChatGPT, c'est les Explores, c'est les GPTs, tu vois, qui sont faits par d'autres gens. Et je vous donne un exemple. Là, j'ai carrément tapé pour un avocat suisse. Et maintenant, tu as des GPTs qui sont faits par des avocats suisses, tu as des GPTs qui sont faits par des avocats français. Tapez avocat France et regardez tous les GPTs qu'il y a. Si vous payez, vous allez halluciner. Je vais vous donner un exemple. Il y a une nouvelle loi. Tu vas adorer ça, Ben, qui s'appelle le CBAM. C'est la Carbon Neutral Tax européenne qui va arriver pour toutes les boîtes d'ici à 2 ans. Maintenant, on fait que du reporting. Et en fait, tu sais rien sur cette loi. J'ai tapé sur les GPTs, il y avait déjà des chats sur cette loi, justement, où tu peux comprendre ce qu'elle fait. Et c'est vraiment génial. Et normalement, j'aurais dû payer mon auditeur pour avoir cette information-là. Et là, c'est gratos. Et je trouve que l'écosystème, il est tellement riche, tellement wow, que franchement, j'arrête pas de l'utiliser. J'ai trouvé encore un autre use case. Vous êtes prêts?
Vas-y.
Mes impôts. Alors, chaque fois, tu sais, t'es là, t'as des énormes fiches d'impôts que tu comprends pas vraiment qu'est-ce que t'as fait par rapport à l'année dernière. Alors, j'ai uploadé 2022 et 2021, parce qu'en Suisse, on paye toujours ses impôts une année en retard, vous savez. On les paye en année, mais ça prend des années. Peut-être c'est la même chose dans d'autres pays. Et il m'a fait une analyse en me disant, voilà les interactions, voilà les si, voilà ce que t'as payé, voilà pourquoi, voilà ce que tu pourrais faire pour t'améliorer. Et ça, par rapport à la loi suisse. C'était hallucinant. Franchement, je vous encourage tous à faire ça. Et franchement, c'est cool. Le seul problème que j'ai encore, et c'est un gros problème, je trouve, pour les sociétés, c'est de pas savoir qu'est-ce qu'ils font vraiment avec les données et avec tes prompts. Et ça, c'est quand même problématique. Mais voilà.
Ils ont pas dit de ChatGPT, OpenAI, que si tu payes, ils l'utilisent pas pour l'entraîner?
Ouais, mais est-ce qu'on les croit?
Off.
En tout cas, moi, quand je demande aux GPTs, je te upload un document, est-ce que tu vas le garder et tout? Normalement, il n'est pas supposé mentir parce qu'un AI, c'est pas mentir.
Ils savent rien, ils le savent pas ça. Ils me disent non.
Ils me disent toujours non. Le document est dans votre chat, il n'est pas pris en compte. Puis je dis mais qu'est-ce qui est partagé? Nous ne partageons pas, mais nous pouvons utiliser certaines recherches pour améliorer l'algorithme. Et puis t'es là, t'essaies de comprendre, mais
ils le savent pas les GPT. Enfin, ça sert même à rien de leur demander parce qu'ils l'ont pas dans leur contexte, tu vois. C'est juste ça, c'est vraiment eux qui bullshit pour le coup.
Ouais.
Ouais. Ça, c'est vraiment, alors, ça, c'est texte. C'est un peu le problème que moi, j'ai, tu vois, c'est que j'ai toujours un peu du mal à l'utiliser. Tu vois, j'utilise Perplexity parce que ça, c'est vachement bien parce qu'il te donne les liens.
Lesquels?
Et donc, Perplexity.
Ah, okay.
Tu sais, il te donne le lien. Et ça, c'est vachement bien. Les autres, j'ai un peu du mal parce que, tu vois, typiquement, utiliser ChatGPT pour la recherche, ça, j'aurais du mal parce que j'aurais du mal à te croire ce qu'il me dit, tu vois. Ça, c'est un peu toujours le problème que j'ai. Et, tu vois, dans l'histoire de la carbon adjustment, si, en général, en plus, le problème, c'est que c'est en plus, c'est bien à la limite. Tu vois, si tu veux juste défraîchir un topic, découvrir un topic, en général, ça marche pas trop mal parce que même s'il y a des imprécisions, c'est pas gênant. Mais ça m'arrive rarement en fait. Tu vois, la plupart du temps, quand je cherche un truc, c'est déjà un sujet que je connais assez bien. Et du coup, ben, c'est vraiment les détails qui comptent. Et s'il a un détail faux, ben, ça enlève un peu, c'est problématique, quoi.
Ok. Bon, en tout cas, c'est intéressant pour revenir à Google de voir où ils en sont et s'ils arriveront ou pas
question.
À sortir. Ouais,
qui pense que notre ami Sundar Pichai va durer encore plus de 3 mois?
3 mois, c'est possible.
Ouais, 3 mois, facile.
Mais est-ce qu'il y a une probabilité qu'il saute à...
Une probabilité dans l'année.
Je pense que c'est ben, cette réorganisation, le fait qu'il soit à la tête de la boîte pour réorganiser, c'est qu'on lui a fait confiance. Toi, tu changes plus... Soit tu le dégages et puis tu réorganises, soit tu réorganises et puis tu lui laisses un moment pour faire, quoi.
C'est pas la plus grande réorganisation non plus, il faut quand même dire. Comme je l'ai dit, c'est vraiment les parties qui font pas beaucoup de sous. Ils les ont mis ensemble pour essayer d'en faire quelque chose. Mais maintenant, tu vois, il a pas touché à Search, il a pas touché à YouTube.
Non, mais
ou
ça,
Google
tu
Cloud.
Touches pas, je veux dire. Ça, je veux dire
tu laisses faire de l'argent, ça.
Ouais, non, mais,
parce que c'est un peu ça le problème aussi, tu vois, de ChatGPT. C'est que fondamentalement, ça change le business model, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent pas? Oui, il y a une partie de, ils ont pas la culture, c'est bureaucratique et tout. Mais la vraie raison, c'est que c'est juste dur. Parce que Perplexity, s'ils faisaient comme Perplexity, ils perdraient de l'argent sur chaque query. Pareil, où est-ce que tu mets des pubs? C'est beaucoup plus dur. Donc, je pense vraiment pas que c'est qu'une histoire de ils ont pas la culture en interne. C'est juste que c'est un problème qui est dur et que ça va pas bien avec
le dilemme de l'innovateur.
Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, de la même façon, si Perplexity te dit de la merde, bon, c'est pas trop gênant, tu sais que c'est Perplexity. Google, s'il te dit de la merde, tout d'un coup, ils veulent pas mettre en danger leur marque, tu vois.
Ouais, c'est pas qui. Ce qu'ils nous disent, c'est toujours incroyable non plus, mais je suis d'accord.
Oui, mais...
Bon. Non, mais on se comprend. On se comprend. Ils te disent peut-être de la merde, mais c'est de la merde qu'ils leur apportent.
Tandis que, donc ça va.
Mais oui. Mais non, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même une tendance qui est observée et puis qui est commentée, que la tendance est plutôt à la baisse. Parce que visiblement, il y a une petite préférence pour le cost per click que pour la qualité, mais c'est un équilibre à trouver, c'est vrai. L'autre chose dont tu voulais nous parler, Baptiste, qui est également intéressante, peut-être même plus intéressante encore, c'est les modèles et la taille des modèles avec notre cher copain Sam Altman, qui pense que peut-être l'époque des modèles géants arrive déjà à sa fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de nouveau un effet d'annonce ou bien il y a plus que ça là-dessous?
Ah, c'est toujours un peu difficile de voir ce qu'il dit. Mais oui, en effet, ce qu'il disait, en gros, c'est que selon lui, ce qui s'est passé avec ces large language models, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ces scaling laws. C'est-à-dire qu'en augmentant la quantité de training et la quantité de données qu'on leur donnait pour les entraîner, on arrivait à prédire à l'avance quelle performance ils allaient avoir. Et donc, en gros, si t'as ça, ça te dit que il suffit d'ajouter du compute, il suffit d'ajouter, de faire des plus gros modèles et ils vont devenir meilleurs.
Yeah.
Et ça, c'est très puissant parce qu'en fait, ça te permet de dire, on va juste, si c'est juste une question de faire plus gros, c'est assez facile, tu vois, tu rajoutes juste du compute et ton truc, il devient meilleur. Mais ce que dirait Sam Altman, c'est que cette tendance-là, elle est en train de diminuer, voire peut-être de s'arrêter. Je pense probablement autant pour des raisons pratiques et économiques que purement scientifiques. Tu vois, t'as une partie de, même si c'est des scaling low, ça reste diminishing returns. Donc, plus tu augmentes la taille du modèle, moins tu vas améliorer ton output, évidemment. Et il y a aussi le truc que, si tu dois faire un modèle qui est 10 fois plus gros pour avoir un résultat qui est 1% meilleur, peut-être que ça vaut plus le coup parce que ça commence à être des modèles qui coûtent extrêmement cher. Si ça coûte plus cher qu'un humain en électricité, peut-être que ça vaut pas le coup.
Il n'y a pas une question d'IP derrière tout ça? Est-ce que ils savent qu'ils vont devant de fortes vagues de législation et de combat légal pour l'IP, ça risque pas aussi de freiner? Qu'est-ce qu'ils peuvent intégrer?
Non, moi je pense que les LLM font bien ce qu'ils font maintenant, mais que on arrive, comme dit Baptiste, on arrive aussi au bout de ce qu'ils font. Alors on va toujours améliorer, puis ça va être 1% mieux pendant ou 5% mieux pendant 20 ans. Donc, au bout d'un moment, ça sera beaucoup mieux. Mais tout LLM, ça sera pas la réponse. Ça sera pas notre AI dans 5 ans. Dans 5 ans, on aura des trucs beaucoup plus modulaires qui vont, il y aura des agents, il y aura des LLM, il y aura des. Sincèrement, moi, je ne crois pas le truc LLM, ça devient l'intelligence générale tout seul. Oui. C'est complètement halluciné, à mon avis.
Mais bon, et donc, c'est ça le truc, c'est que ça veut dire qu'en fait, les limites de la technologie d'aujourd'hui, tu sais à peu près où est-ce qu'elles seront dans quelques années, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, et à quel point ça va s'étendre dans d'autres domaines, tu vois. Par exemple, j'entends beaucoup, beaucoup de gens parler de robotique, tu vois. Il y avait Boston Dynamics qui a annoncé son nouveau robot. Il y a Elon Musk qui dit que globalement, ils vont faire ce robot Optimus. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'annonces. Et vraiment, enfin, j'entends beaucoup de podcasts, beaucoup de choses. Mais je ne sais pas à quand ça va s'arrêter. Parce que pour moi, ça sent un peu, comme vous voyez les voitures autonomes en 2012, ça sent un peu la même chose, tu vois. De, oh, regardez,
dans un
on
an,
a toutes les
briques
qu'il faut. Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, mais il y avait cet effet-là de dire, regardez, on a toutes les briques qu'il faut maintenant pour résoudre le problème. Et en fait, tu te rends compte que la toute fin du problème, que oh, ça va être résolu dans un an, et elle va
on
être
attend encore.
C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est moi qui conjecture. C'est pas certain. Et donc, ça va être intéressant de voir, OK, où est-ce qu'on peut étendre ce que font les LLM aujourd'hui? Est-ce qu'on est limité à des LLM ou est-ce que peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, quoi?
Ouais.
Bon, et aussi, est-ce que tout ça, c'est pas juste Sam Altman qui dit ça de manière complètement self-interested? Comme ça, on arrête de faire de la recherche pendant que lui, il fait GPT.
Et puis lui, il le dit de manière tellement gentille qu'on le croit. Parce qu'il est tellement gentil. Ça. Il est tellement incroyable.
Non, mais moi, je crois assez au modèle. Disons que tout ça sera comme n'importe quel cloud. Il y a des trucs que tu vas prendre tel quel. Quand tu auras vraiment des besoins incroyables, ben, tu vas utiliser des modèles open source que tu vas tuner pour toi. Mais la plupart des gens ne le font pas parce que pourquoi tu t'embêterais à le faire? Et puis que ça va devenir dans AWS. Et puis que toi, en gros, il y a la prochaine itération. Donc, mais bon, en tout cas, c'est intéressant de voir parce que on passe quand même d'un truc où il dit, ChatGPT 5, vous allez tomber de la chaise, vous allez jamais croire. À un moment, il dit, ouais, vous ne pouvez pas trop s'exciter non plus. Donc, c'est juste pour sentir un peu la tendance du moment. Je trouve que c'est une news qui vaut vraiment la peine. Et puis, on se réjouit de voir ce qui vient après, parce que de toute manière, il y a plein de trucs qui viennent, quoi. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la partie inspiration?
C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant de s'inspirer?
On respire.
Et j'apprends à mes gamins à respirer. Vous savez, ce qui est marrant, c'est qu'au fait, même petits, ils ont tendance à respirer par les poumons. Et je leur apprends à respirer par la ventre,
les
comme
poumons.
Les chanteurs. Enfin, en utilisant ses poumons, mais pas ses... Et c'est vrai que quand tu leur apprends ça, j'espère que ça leur durera toute leur vie, puisque moi, j'ai appris ça il y a même pas 5 ans.
Il a respiré avec le diaphragme, avec le ventre, comme on dit.
Oui, avec le ventre. Avec le ventre, au lieu de respirer avec le haut du corps. Donc déjà... allez taper sur YouTube et regardez comment respirer, vous verrez, ça fait du bien, même une respiration. Oui. Voilà, c'est très bien.
Et on avait parlé du bouquin Breathe.
Oui. Un bouquin incroyable qu'on vous recommande encore. Alors, petit truc que moi, j'ai écouté récemment, un petit podcast assez sympa, qui a un gars qui s'appelle Mo Gadwat et qui a écrit un livre qui s'appelle La Happiness Formula. Et franchement, il a aussi un podcast, vous pourrez aller voir, mais il parlait sur le podcast de Tony Robbins et honnêtement, en plus, je l'ai partagé à quelques personnes et ils l'ont vraiment apprécié. Donc, il parle vraiment bien, il s'exprime vraiment pendant une demi-heure, une heure, il explique quelques faciles happiness formula et je dois dire qu'il y en a une qui m'est restée et que j'utilise. Et c'est rare que vraiment il y ait le truc qui stick. Et lui, okay. Il a eu des machins qui lui sont arrivés difficiles. Genre, voilà, il était dans la pinesse et tout. C'était un ingénieur à la base. Après, il a eu son enfant qui est mort. Un gamin de 17, 18 ans. Donc, vraiment dans un tragique accident et des choses comme ça. Donc, vraiment, il a vécu des difficultés. Donc, c'est pas le gars qui parle de la pinesse sans avoir vécu. Et une des choses qu'il dit, comment, quand ton cerveau, il part en prix, genre, ah ouais, on m'aime pas, ou quelqu'un m'a dit, la première question qu'il faut se poser, c'est, is this really true? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et franchement, je vous promets que ça paraît con, hein. On se dit, ah, mais c'est pas vrai, tu peux. Mais si vous posez cette question-là, quand vous commencez à partir en vrille, ce qui vous arrive plusieurs fois par jour, même quelques milliers de fois comme moi, c'est vrai que ça déclenche quelque chose dans votre cerveau qui fonctionne. Et il a quelques hacks comme ça, assez petits, pour pouvoir aller dans la direction. Et c'est un muscle, hein. Donc, je dois dire, vraiment un bon podcast, simple à écouter, puis simple à mettre en avant. Et puis, une bonne personne, ce Mo Gadwat, qui est ingénieur de formation, mais qui a décidé de faire d'autres choses. Donc, qui a été un des founders de Google Ventures. Donc, ouais. Quelqu'un
Non, mais c'est un bon hack dans la mesure où tout ce qui te permet de prendre un peu de distance, oui. Que ce soit ça, autre chose, enfin, tout ce qui te permet de casser la boucle,
oui.
Et puis de prendre un pas de recul. On parlait avec Tony Robbins, il disait faut faire un geste ou faut faire un truc. En gros, faut casser la boucle.
Oui, casser
et
la
puis,
boucle.
Du moment que tu casses la boucle, c'est vrai que c'est un bon hack parce que le fait de te dire est-ce que c'est vrai, ça te force à réfléchir au truc un peu de l'extérieur.
Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que c'est de toute façon un peu vrai. Mais est-ce que c'est vrai? Is it really true? Tu vois?
Ouais. Non, c'est malin. C'est
un petit hack.
Parmi avoir dans son arsenal. J'aime bien. Okay. Sympa.
Un audiobook que je suis en train de finir, c'est le dernier audiobook de Seth Godin. Song of Significance. Alors, ouais, c'est pas le meilleur livre de Seth Godin, c'est lui qui le lit, donc intéressant. Ouais, voilà, c'est first who then what. D'abord les personnes, après ce que vous faites. Donc voilà, on met en avant les gens, on met en avant les choses. Je retiens un truc qui est assez intéressant. C'est vrai qu'il dit que les organisations, au fait, on essaye de conserver les gens parce que voilà, on en a besoin, alors que les gens devraient pas se laisser conserver. Parce qu'ils ont tout à gagner à être plus libres, à être.
Essaye vraiment de conserver les gens. Nous, typiquement, encore récemment, hein, les gens qui sont pas satisfaits et tout. Toi, oui.
Alors les gens pas satisfaits. De toute façon, au bout d'un moment, tu peux pas les satisfaire.
Mais non, c'est ça qu'il faut dire. Le monde est vaste et plein d'opportunités, quoi. Donc,
Oui. Mais c'est vrai que souvent, celui que tu veux, c'est la personne. C'est les personnes, les high performers. Et ceux-là, quand on a qui partent. Moi, ça m'a pu m'arriver. C'est vrai que ça te fait beaucoup plus mal parce que tu es là, aïe, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Alors qu'il ne faut pas se dire ça. Il faut dire, la personne a peut-être fait son temps et puis il faut qu'elle fasse voir autre chose. Mais c'est dur à accepter. Moi, ça m'a été dur. Et ça m'est encore dur quand ça m'arrive. Mais je trouve que c'était intéressant de voir ces deux mondes et puis de voir cette explication, de dire, c'est pas son meilleur bouquin, mais il y a quand même quelques petits échanges qui sont intéressants à la Seth Godin, qui sont bien réfléchis. Et souvent, faut le dire, souvent, très souvent, il a le coup d'avance. Un peu comme Gary Vee dans les social media, lui, dans le sentiment du monde, dans où il va, il a souvent le coup d'avance.
Ouais. Ok. Très bien. Petit bouquin de Seth Godin. On a des livres aussi. Des séries.
Oui, des livres. Vas-y, toi, Ben. C'était ton livre qui était devant.
Il y a un des deux, oui, effectivement. Là, c'est un petit livre très, très sympa, moi, qui m'a beaucoup diverti, tout en m'apprenant des choses alors qui seront peut-être évidentes pour vous, mais qui, pour moi, étaient relativement nouvelles. Donc, je vais vous poser la question à vous deux. Si vous devez retenir, mettons, une liste de 20 choses, que ce soit à faire ou que vous devez garder un truc en tête, comment vous faites?
Je les écris.
Ok, mais si tu veux les connaître par cœur, si tu veux les avoir en tête, toi.
Moi, le par cœur, c'est ma ruine. Okay. Déjà, à l'université, je devenais fou quand je devais apprendre par cœur. Je grimpais au mur.
Je répète, je pense que je passerai mon temps à le répéter. Je sais qu'il y a des techniques bien où il faut marcher dans un jardin, machin et tout. Là, c'est le truc
spatialisation,
exact. Mais je le ferai pas.
Alors, j'avais appris une technique, mais je l'ai jamais faite. Mais c'est vrai, je l'ai fait une fois en apprenant la technique où tu t'imagines le mot à arbre, et puis alors tu vois l'arbre, et puis après arbre, chaise, donc tu vois une chaise, et puis tu fais le lien entre l'arbre et la chaise, nez, puis tu vois nez, puis tu grandis, et puis tu visualises le mot que tu dis. J'ai déjà fait, mais je l'utilise pas.
Et sincèrement, donc le bouquin dont je voulais vous parler s'appelle Moonwalking with Einstein. C'est l'histoire d'un journaliste américain qui commence simplement par aller, je crois qu'il commence par se demander qui est l'homme le plus fort du monde. Il va visiter son musée et puis de fil en aiguille, il se dit mais finalement, quelle est la personne la plus intelligente du monde? Et il se rend compte que l'intelligence, c'est plein de choses. Mais il tombe là-dessus sur quelqu'un qui est capable de mémoriser des tas de trucs et lui-même va se dire il va rentrer dans le jeu et il finit par être champion un an plus tard des États-Unis de mémorisation. Et il raconte un petit peu son aventure. Alors, c'est drôle et ça passe. Et au milieu, il raconte effectivement. Alors, il y a deux gros trucs. Un, c'est la spatialisation, comme on nous a dit Nestor. Et ça marche hyper bien. Alors, moi, typiquement, j'ai un règlement qui est mon règlement de tous les jours que je dois connaître par cœur, qui fait 19 articles. Donc, c'est des dizaines. Je pense qu'en tout, il y a peut-être 100, 120 points à connaître. J'ai mis ce règlement dans le trajet de métro que je prends de la maison jusqu'au lac ici à Lausanne. En faisant cet espace de spatialisation, étonnamment, vraiment, ça marche hyper bien.
Alors, c'est quoi la spatialisation?
Donc typiquement, pour donner un exemple, quand j'arrive à la première station, le premier article, c'est Subject Matter and Scope. Donc voilà. Et puis pour m'en souvenir, j'imagine qu'il y a des travaux dans cette station avec des gens qui mesurent un mur. Comme ça, je me souviens que c'est scope. Et puis après, je me souviens de l'article. Et puis là-dedans, après, tu peux te souvenir qu'il y a trois articles dedans. Et puis tu vas mettre des choses dedans. Puis le deuxième article, c'est définition. Donc c'est en rentrant dans le métro que tu vois le panneau avec la ligne. Donc c'est la définition avec tous les trucs. Puis tu te fais une histoire où tu peux aussi asseoir les gens dans le métro, par exemple. Et puis
tu vis l'histoire. C'est ça. Tu vis le truc. Parce que moi, je la faisais dans ma tête, mais si tu marches dans ton jardin puis tu te vis l'histoire, là, tu peux l'apprendre.
Et puis, il faut que ça soit complètement marrant ou stupide. Par exemple, il y a des services. Il y a les member states qui peuvent donner des services. Puis j'imagine un gars qui parle à un cerf. Et puis, toi, parce qu'il y en a 4 ou 6 services, donc il est en train de lui dire, mais pourquoi t'as 6 pattes? Et puis, bref, toi, l'histoire fait que c'est complètement ridicule, mais du coup, c'est mémorable. Et puis, du coup, t'arrives à te refaire l'histoire. Et le bon côté quand tu fais de la spatialisation, c'est que c'est hyper facile à prendre en cours de route ou à l'envers. Tu sais, les gens qui sont capables de te réciter à l'envers, parce que, à la place de prendre le métro en descendant, je prends mon temps et puis je le fais hyper facilement. Tu vois, et puis tu t'arrêtes, puis tu t'explores, quoi. Donc, c'est
et du coup, tu arrives à prendre juste un endroit. Tu apprends pas juste la séquence, mais aussi tu arrives à faire, tu sais, en informatique, tu dis random access.
Ouais.
Donc, juste à des endroits au hasard.
Typiquement, tu me dis, voilà, l'article 6. Alors, l'article 6, je fais le truc, hop. Donc, je sais que c'est les opérateurs. Donc, les opérateurs, c'est au CHUV. Ça tombe bien parce qu'il y a plein d'opérations de drones au CHUV. Donc, il y a un gars qui fait ça. Puis, justement, le cerf se promène par là parce qu'il y a des services. Bref, je vous la fais. Il y a un pigeon qui vient. Et c'est hyper drôle. Moi, ce qui m'a
surpris, c'est très drôle, en effet.
C'est que il faut faire des trucs qui te font délirer toi, sinon tu te souviens pas. Donc, plus tu t'amuses, ou plus tu t'énerves, ou plus tu mets de l'émotion, et plus tu trouves que c'est funky, mieux tu vas te souvenir parce qu'en fait, ça te fait plaisir de refaire l'histoire, toi. Et puis, si tu te souviens pas d'un truc, tu varies un peu pour
Est-ce
que ce soit plus
mémorable. Apprendre aux enfants, par exemple, à mémoriser des mots de vocabulaire ou des trucs comme ça?
Bien sûr. Et après, il y a plein de trucs. Il y a des trucs pour les dates aussi. Ils appellent ça le système majeur. Alors, typiquement, tu mets des sons. Tu mets des sons par rapport au nombre. Donc 0 c'est ou z, 1 c'est t ou d, 2. Alors moi j'ai un moyen mnémotechnique qui s'appelle ce dromadaire noir mange rageusement le chou qu'a fait papa, et donc c'est c c'est 0, d c'est 1, etc. Puis comme ça c'est chaque début de lettre, mais chacun fait sa phrase. Moi c'est un truc qui m'a fait marrer, mais après tu utilises ça pour faire des phrases. Donc si tu dois te souvenir de longs codes, tu fais une phrase avec, soit ça peut être des mots, soit des points, voilà quoi, tu fais à ta sauce un peu, mais tu sais que les lettres à des moments précis, c'est que les consonnes. Toi tu rajoutes les voyelles, puis tu te crées un truc qui fait que ça a du sens. Mais de nouveau, le fait qu'il faut que ça soit drôle et puis que toi tu te souviennes. Et pour des dates, alors il y a des trucs qui n'ont pas besoin, mais si tu as des trucs un peu plus compliqués, ça marche hyper bien.
Et la question bête encore, mais tu vois, par exemple, typiquement, le truc que tu utilises beaucoup à l'école, c'est pour apprendre des fiches de vocabulaire dans les langues étrangères, par exemple, ce genre de choses. Mais est-ce que, tu vois, ça t'aide, ça te donne pas tu vois, c'est bien pour apprendre par cœur, entre guillemets, mais ça te donne pas si tu cherches un mot, tu vois, si le but c'est d'être bon à utiliser le mot, ça c'est plus pratique. Ok, attends, je veux ce mot. Je sais pas, genre nager, c'était cette liste de vocabulaire là, tu descends et du coup c'est swim, tu vois.
Je vais te dire parce que je me suis posé la même question. C'est hyper pratique pour des trucs genre, alors les textes de loi, c'est franchement la fête, ça je vais garder à coup sûr. Les dates, bon, j'en ai moins besoin, mais bon, je vais essayer pour le délire. Mais je me suis posé exactement la même question parce que je me suis dit, bon, si je veux peut-être améliorer mon allemand, peut-être que je peux avoir le même plaisir finalement. Là, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas vraiment cherché encore. Je viens de finir le bouquin. Mais en tout cas, si voilà, comme introduction, c'est pas vraiment un bouquin qui parle beaucoup des techniques, hein, mais comme introduction à ce monde et puis à toute la réflexion, parce que finalement, le fin du truc, c'est que lui, il a une intelligence moyenne. La plupart des gens qui font ces trucs ont des intelligences moyennes, mais c'est juste que si tu utilises ces techniques et que tu t'entraînes beaucoup, tu peux te souvenir de trucs incroyables. Après, est-ce que c'est très utile de se souvenir de trucs incroyables? Sans doute pas, mais pas au point d'être pro là-dedans, mais voilà. Bref, en tout cas, Moonwalking with Einstein, court, drôle, j'aime bien.
Et merci, il y a des gens qui, ça a l'air de faire réagir dans notre chat, qui dit, notamment Nestor, c'est effectivement redoutable, je l'utilise pour mémoriser mes présentations, beaucoup utilisent pour les discours politiques de ce que j'ai vu. Voilà, intéressant. Ou il y en a un autre qui parle de Kanji, K-A-N-G-I-S, c'est se faire des histoires par Kanji, c'est la méthode Magnet, M-A-N-I-E-T-E, voilà. Donc, ça a l'air de parler à beaucoup de gens, sauf à moi. Écoute, peut-être ça aurait sauvé ma mise ou mon état mental quand j'étais à l'université. En tout cas, je vais tester sur mes gamins parce que je vois que ma fille a exactement les mêmes difficultés que moi à apprendre par cœur et ça l'énerve. Donc, je vais essayer. Et par contre, elle adore raconter des histoires.
Le brute force, ça marche pour personne. Hein. Ça, on sait.
Moi, mais j'ai essayé.
Mais t'es pas seul. Hein.
Pour un intellect rare comme Baptiste, c'est facile, mais pour les gens comme moi, c'est dur.
Non, mais le truc, c'est facile pour personne. Après, il y a des gens qui sont meilleurs à utiliser la technique. Mais bref, on en reparlera quand je connaîtrai l'intégralité des 400 000 mots d'allemand. Là, voilà, on en reparlera pour la suite.
Parfait.
C'est qui, le deuxième bouquin, c'est Baptiste ou c'est toi ?
Non, c'est moi et c'est une personne qui s'appelle Annie Besant, une autobiographie que je suis en train de lire, finir en ce moment, vraiment cool. Est-ce que vous connaissez la théosophie ?
Tu m'as parlé de ça déjà, non ?
Oui, je crois que
tu
en as déjà parlé.
Oui, j'en ai déjà un peu parlé à cause de Blavatsky qui l'avait définie, qui était une Russe, Française, enfin voilà. Mais celle qui l'a vraiment instaurée, c'est Annie Besant. Et qui était après sa collaboratrice et qui a vraiment fait la théosophie ce qu'elle était. Elle était très connue au début du XXe siècle, maintenant un peu moins, mais c'est un peu, ça vient du mouvement free thinker, un peu sorti des mouvements seulement religieux, mais il y avait quand même un côté spirituel, hein, la théosophie, aussi beaucoup liée avec l'Inde. Voilà, il y a encore des théosophes en Inde, beaucoup plus qu'en Europe, il semblerait. Et bah, j'ai lu l'autobiographie de cette personne et j'ai vu que voilà, j'ai vu à quel point le monde, quand il fallait changer les choses, était complexe. Et c'était en 1850 à 1876, fin du deuxième moitié du 19e siècle. Et elle raconte sa vie et tu vois à quel point, pour faire évoluer les choses, c'est très difficile. Par exemple, elle voulait plus, elle était religieuse à l'époque. Et en Angleterre, on parle, elle voulait être maintenant athée et tout ça, comme il se faisait malmener, comme il se faisait jeter des cailloux, comme il se faisait interdire, comme il se faisait poursuivre judiciairement parce qu'il n'était pas croyant. Des choses de fou. Et quand on lit quelque chose comme ça, on se dit waouh, comme le monde a quand même sacrément évolué. On parle de 150 ans, on parle de voilà, on penserait que l'Angleterre était plus ouverte que ça, mais non. Et en lisant cette autobiographie, on se rend compte à quel point que le changement est difficile. On se dit waouh. Alors des fois là, en ce moment, on se dit ouais, le changement, mais il a toujours été difficile et les conflits ont toujours existé. Et quand on lit des livres avec des gens qui l'ont vraiment vécu où ils racontent en détail, on est bien halluciné. Voilà, un livre, en tout cas, qui fait réfléchir sur le fait, qui remet en perspective un peu tous ces changements, de dire, ah ouais, regarde ce qui se passe. C'était pire. C'était vraiment pire avant.
OK. Bon, Annie Besant, je ne connaissais pas. Donc,
Annie Besant, elle s'appelait. Besant.
OK.
Et voilà, vous tapez online, vous verrez, elle a écrit beaucoup, beaucoup de livres, mais une personne intéressante, regardez sur Wikipédia. Voilà. Dernière chose, une petite série pour finir, je ne sais pas. Vous connaissez le livre Shogun ? Non ? Sur le Japon ? Vous avez jamais vu la série ou le livre Shogun? Vous avez
Alors, le Shogun, on connaît parce que c'est...
L'empereur japonais en temps de guerre, oui.
Mais la série, le livre, non.
Ok. Alors, ça, c'est un livre assez connu qui a été fait en série dans les années 90. Et puis même avant, ça a été fait plusieurs fois. Mais là, il y a une série qui vient. Combien vous pensez qu'elle a sur IMDb?
Ah merde, je suis sur IMDb, donc je ne vais pas dire, mais...
Mais 9 sur 10, c'est assez hallucinant d'avoir 9 sur 10 dans une série, j'avais jamais vu ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à la regarder, et franchement, elle est assez hallucinante. Avec le Japon, beaucoup, ça parle beaucoup en japonais avec les sous-titres et tout. Vraiment, il y a un côté assez super bien fait, avec des beaux costumes, assez incroyables. Et donc... Ouais, remarquable à voir et puis à comprendre, pas à consommer vite. C'est pas un truc qu'on a envie de binge-watcher, en tout cas pas moi. Mais je me prends comme ça, tranquillement, quelques épisodes et j'aime bien. Donc Shogun, pour ceux qui s'intéressent au Japon, incroyable série. Ouais.
Disney Plus. Okay.
Oui. Sur Disney Plus ?
Ouais. C'est ce qu'ils disent là. Ouais.
Ok, parfait.
Partons. Ok, excellent choix. D'où nous as-tu tiré la citation de fin d'émission ? Est-ce que ça sera de Shogun ?
Non, ça ne sera pas de Shogun, ça sera justement de Annie Besant, l'autobiographie. Elle va de cette manière suivante. Tu es prêt?
Tout à fait.
Do not waste time by reading opinions that are mere echoes of your own. Read opinions you disagree with and you will catch aspects of truth you do not really see. You do not readily see.
Donc, ne perdez pas de temps à lire des opinions qui ne sont que des échos aux vôtres. Lisez des opinions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et vous verrez des aspects de la vérité que vous ne voyez pas de manière évidente. Donc, en fait, tu veux qu'on sorte de notre bulle, Mike, c'est ça ?
Oui. Et ça, c'est une personne qui a vraiment cherché la vérité qui parle. Une personne qui a été à l'encontre de ce qu'elle croyait pour vraiment chercher la vérité et chercher et s'instruire. Et voilà, elle dit justement, si on veut trouver la vérité, il ne faut pas lire les choses auxquelles on est d'accord, avec lesquelles on est d'accord, mais justement l'inverse. Et dans un monde où justement on est dans notre bulle et puis on veut que des gens qui nous répètent, ça nous montre que finalement c'est pas comme ça qu'on arrive à trouver justement cette vérité. Et je trouvais ça intéressant de se dire, voilà, même si on se croit ouvert, même si on pense que finalement, moi je lis souvent des choses avec lesquelles je suis d'accord et pas tout le temps, avec des choses je suis pas d'accord. Alors ouais, il y en a certains, ça serait de regarder CNews ou de regarder BFM TV. Je dis pas qu'il faut regarder ça ou de lire Le Monde ou de lire Valeurs Actuelles. Je sais pas, c'est des challenges comme ça. Mais finalement, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et arrêter de lire des choses avec lesquelles on est d'accord. Et ça, je trouvais intéressant.
Oui, en tout cas, c'est pas que chercher effectivement. Mais c'est ce que. Ouais. Donc c'est une très belle quote qui est d'actualité, écrite il y a 100 et quelques années. Donc oui. Comme quoi, effectivement. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. On se réjouit de vous retrouver. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, passez, amusez-vous bien et cherchez des nouvelles choses à faire avec nos amis les GPT. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.